RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique sur RFI et France 24. Ce soir, notre invitée est Marlène Schiappa. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Les discriminations, il suffit d'énoncer l'intitulé de votre fonction pour comprendre que vous êtes malheureusement, on pourrait dire, au cœur de l'actualité. On vient d'en avoir une désolante illustration, puisque une centaine de tombes ont été profanées hier soir dans un cimetière juif d'Alsace, alors même que des marches contre l'antisémitisme doivent commencer en ce moment même dans plusieurs villes de France, en réponse à d'autres actes commis au cours de ces derniers jours. Les actes antisémites connaissent une progression spectaculaire, une hausse de 74% en 2018, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Qu'est-il en train d'arriver à la France, Marlène Schiappa?
Ce qu'on observe d'abord, vous avez raison de le préciser, c'est une recrudescence des actes antisémites. Et on observe aussi en parallèle une grande augmentation des actes homophobes, des agressions et des agressions verbales et également physiques. Ce qu'on voit en fait dans l'ensemble des chiffres, si on prend de la hauteur, c'est une augmentation des actes liés à la haine de l'autre. Donc l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est profond, qui est ancré historiquement dans la France. Je rappelle la France juive qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui connaît une résurgence, hélas, avec une expression complètement dévoyée des haines sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle, entre guillemets, dans la rue.
Ouais. Alors, on va parler de la haine en général, et notamment sur les réseaux sociaux, mais restons un instant sur cette manifestation, ce rassemblement contre l'antisémitisme. Ça commence en ce moment, je le disais, dans plusieurs villes de France, et notamment à Paris, place de la République. Ça n'est pas la première fois que ce genre de rassemblement a lieu. Est-ce que vous pensez que ce genre de manifestation sert encore à quelque chose? Parce que finalement, c'est un peu comme après chaque attentat. On se rassemble, on s'indigne, parfois on allume des bougies, on déclare sa solidarité, on dit que la France est debout, qu'elle ne pliera pas, et puis ça recommence.
Oui, mais je crois que ça a le mérite d'abord de montrer une indignation collective et de montrer que l'antisémitisme, ce n'est pas la France. Qu'il y a de l'antisémitisme en France, mais la France n'est pas un pays qui est structurellement antisémite. Et je crois que l'unité qu'on voit, puisque c'était à l'appel de plusieurs partis politiques différents, l'unité qu'on voit d'une grande partie de la classe politique sur ce sujet doit, de mon point de vue, être rassurante pour dire que notre norme sociale, c'est de refuser l'antisémitisme. Il ne faut jamais s'habituer. Je crois que ça ne suffit pas de faire des marches, mais le jour où on cesse de s'indigner et de faire des marches, ce sera un jour bien triste.
Emmanuel Macron, aujourd'hui, qui s'est déplacé en Alsace, où ce cimetière juif a été profané, a dit qu'il y aurait des actes et des lois. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, notre arsenal législatif n'est pas suffisant à l'état actuel des choses?
Je crois que c'est un sujet qui mérite d'être débattu. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont nouveaux dans la manière dont ils s'expriment. Et notamment, je crois que le président faisait référence à tout le travail que nous menons face aux GAFA et aux réseaux sociaux. Parce qu'actuellement, effectivement, les propos antisémites, mais aussi homophobes, sexistes, ils restent en ligne trop longtemps sur les réseaux sociaux. Et c'est un sujet que nous abordions cet après-midi avec le Conseil consultatif de l'égalité femmes hommes que le président a installé à l'Élysée tout à l'heure.
On va en parler. Est-ce que vous espérez voir des gilets jaunes ce soir dans les manifestations contre l'antisémitisme? Parce que certains de ces actes antisémites ont eu lieu pendant des manifestations de gilets jaunes.
Oui, il y a des gilets jaunes qui ont commis des actes antisémites, il y a des faits antisémites qui se sont produits en marge des manifestations, il y a aussi des gilets jaunes qui en ont été victimes. Quand je vois que Ingrid Levavasseur, qui au demeurant n'est pas juive du tout, est traitée de sale juive en marge d'une manifestation comme un propos haineux avec d'autres propos sexistes, je crois que c'est extrêmement préoccupant.
L'un des plus importants partis politiques de France, en termes de résultats électoraux, le Rassemblement National, n'a pas été invité à participer à cette marche contre l'antisémitisme, pas invité par le Parti Socialiste qui en est à l'initiative. On va écouter ce qu'a dit Marine Le Pen à ce propos et on y revient juste après.
Moi, je ne vais pas là où je ne suis pas souhaité et désiré. Deuxièmement, je ne veux pas participer à une instrumentalisation politicienne. Tous les partis qui vont manifester ensemble ce soir ont été les uns et les autres au pouvoir dans les 30 dernières années. Et ils ont laissé s'installer dans notre pays un fondamentalisme islamiste qui est incontestablement à l'origine de l'antisémitisme aujourd'hui.
Voilà, Marine Le Pen, manifestement contrariée de ne pas avoir été invitée. Alain Finkielkraut, le philosophe, l'académicien, qui a été pris violemment à partie samedi à Paris, considère que c'est une erreur, que le Rassemblement National, je le cite, est un parti républicain et qu'il aurait dû être invité. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ?
Et moi, je suis porte-parole ni du Parti Socialiste, ni, je m'en garde, du Rassemblement National. Oui. Donc, ça n'est pas moi qui envoie les cartons d'invitation. Mais je crois aussi que si on a besoin d'un carton d'invitation pour savoir si on doit aller manifester contre l'antisémitisme, ça devient assez préoccupant. Le discours du Rassemblement National, précédemment Front National, qui vise à dire depuis des générations, les autres ont déjà été au pouvoir, nous jamais, nous ne sommes responsables de rien, il n'est plus valable. Je rappelle qu'ils ont un nombre de députés européens absolument colossal, le Rassemblement National et leurs alliés. Que font-ils au Parlement européen pour lutter contre l'antisémitisme ? Absolument rien, puisqu'ils le nourrissent, on le voit dans leur fréquentation, on le voit dans un certain nombre de soutiens du Rassemblement National qui ont des comportements et un passif sur le sujet assez ambigu. Je rappelle que le Rassemblement National, c'est aussi Jean-Marie Le Pen et c'est les chambres à gaz, détail de l'histoire de l'humanité, je cite, ce qui n'est pas à proprement parler.
Ouais, ça, c'était le Front National.
Tout à fait.
Aujourd'hui, mais... c'est le Rassemblement National.
Oui, alors
et
c'est
Marine
trop facile
Le Pen,
de refaire la devanture.
Exclu son père. Enfin, beaucoup s'accordent à dire qu'elle a changé les choses.
Il est resté président, puis président d'honneur du Rassemblement National très longtemps. C'est la même famille, c'est la même famille politique, ce sont les mêmes idées. Ce n'est pas parce qu'on refait la devanture qu'on change le fond et qu'on change les rayonnages.
Alors, on va élargir, puisque vous parliez de vous-même dès le début de notre entretien, de cette violence, de cette haine qui se déverse sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est assez stupéfiant ce qu'on peut lire. Ça vise les homosexuels, ça vise parfois les femmes en tant que femmes, ça vise les noirs en tant que noirs, parmi d'ailleurs un certain nombre d'élus de La République En Marche. Vous-même, ça vise les élus. Vous-même, vous êtes victime d'insultes particulièrement répugnantes que je ne vais pas citer. Libre à vous si vous le souhaitez de le faire, mais vous ne me paraît pas forcément utile de les rappeler. Comment vous expliquez ce phénomène ? Ce sont les réseaux sociaux qui sont responsables de ce sentiment finalement qu'on peut tout dire sans prendre de risques ?
Je crois que les réseaux sociaux sont un outil, mais effectivement, lorsque les propos haineux sont en ligne et qu'ils ne sont pas supprimés par les réseaux sociaux dans des délais raisonnables, c'est préoccupant. Vous savez, quand on envoie un signalement à Twitter et que Twitter vous répond simplement « Non, ce message n'enfreint pas mes conditions d'utilisation », alors qu'il y a manifestement des propos insultants et injurieux, c'est préoccupant. Donc moi, cet été, j'ai fait voter une loi contre le cyberharcèlement en meute, qui est désormais condamnée. Désormais, même si vous avez simplement retweeté, fait un like ou un j'aime ou un partage d'un contenu haineux, on considère que vous avez participé à du cyberharcèlement meute et vous êtes condamné. Et au-delà de ça, le gouvernement travaille à faire en sorte que dans l'année qui vient, nous puissions forcer les hébergeurs et les plateformes, quel que soit leur statut, Twitter, Facebook, les forums, à retirer les contenus haineux. Parce qu'il y a deux sujets quand vous êtes victime de cyberharcèlement. Il y a un, la condamnation de la personne qui vous harcèle, et deux, comment on fait cesser ces phénomènes de cyberharcèlement. Et pour ça, il faut que les plateformes prennent enfin leurs responsabilités et retirent ces contenus.
Mais les réseaux sociaux, ils ne sont que les révélateurs de cette haine qui aurait donc existé avant les réseaux sociaux, mais qui ne trouvait pas les canaux pour s'exprimer. Ou est-ce que, d'une certaine façon, ils auto-alimentent aussi ce mouvement ?
Ça, c'est une très bonne question que vous posez, qui est quasiment une question philosophique. Oui. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, il y a pour la première fois une union mondiale contre ce sujet du cyberbullying. Cet après-midi, et même ce matin, nous avons passé la journée entière à l'Élysée, et tout à l'heure avec le président de la République et avec Brigitte Macron, avec plusieurs dizaines de personnalités de la société civile engagées pour l'égalité femmes-hommes dans l'ensemble des pays du monde. Parce que la France préside le G7 cette année, nous prenons la présidence du G7 après le Canada, et Emmanuel Macron a décidé de profiter de cette présidence française pour lancer un appel pour faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause mondiale, et plus seulement une grande cause quinquennale en France. Et parmi les sujets d'engagement, la question de la lutte contre le cyberharcèlement. Ouais. Emma Watson, la jeune comédienne qui est membre de ce conseil, qui était là, qui est à Paris, qui était à l'Élysée avec nous tout à l'heure, a interpellé l'ensemble des membres en disant que beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons étaient victimes de cyberharcèlement, que ça pouvait les conduire au suicide et que donc il y a urgence à agir tous les pays ensemble pour mettre la pression sur ces hébergeurs et sur ces plateformes.
Alors, vous faisiez donc allusion à cette réception cet après-midi d'un certain nombre de personnalités féminines qui vont être en quelque sorte des ambassadrices de l'égalité homme-femme. C'était à l'occasion de la du premier conseil consultatif sur l'égalité entre les hommes et les femmes du G7. Grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé. Vous avez trois axes prioritaires qui sont l'éducation des filles, l'émancipation économique et la lutte contre les violences. C'est très vaste. Est-ce que vous avez des objectifs en quelque sorte chiffrés, des objectifs concrets dont vous pourrez vous dire à terme, voilà ce qu'on a réussi?
Alors d'abord, c'est une réunion de travail, une première réunion de travail avec ces dizaines de personnalités, avec notamment les deux prix Nobel de cette année, Nadia Mourad, qui a été victime notamment d'esclavage sexuel, et le professeur Denis Mukwege, qui est un professeur éminent, qui répare, entre guillemets, les femmes qui ont été victimes d'un certain nombre de sujets de violences sexuelles. Ces deux prix Nobel ont accepté de co-présider ce conseil. Et donc ce conseil, il a travaillé toute la journée, depuis ce matin, sans discontinuer, pour justement proposer un bouquet législatif à l'ensemble des pays du G7. Donc le but de ce conseil, ce n'est pas juste pour le plaisir de se réunir, même si c'est un plaisir, c'est d'étudier les meilleures lois dans le monde pour l'égalité femmes-hommes, pour savoir lesquelles on peut faire implémenter d'abord par les pays du G7 et puis ensuite par tous les pays, partout dans le monde, pour faire progresser la question de l'égalité femmes-hommes.
Parmi ces femmes, donc parmi ces ambassadrices de l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a la présidente des FEMEN, Ina Shevchenko. Vous considérez que c'est une interlocutrice parfaitement respectable?
Absolument.
D'abord, malgré son mode d'action, le mode d'action de son mouvement, alors, qui est extrêmement radical parfois,
d'abord,
et même choquant, certains l'ont dit, y compris d'ailleurs une personne qui vous a précédé à ce poste de l'égalité homme-femme, Najat Vallaud-Belkacem par exemple.
Écoutez, on peut être choqué parce qu'il y a des femmes qui ont les seins nus dans les rues de Paris.
Non,
on
c'est
peut
pas
aussi
ça, c'est des éruptions dans les églises.
Il y avait des dizaines de personnes présentes. Je ne valide pas l'intégralité des méthodes des dizaines de personnes présentes. De la même façon, je pense que toutes ces personnes ne valident pas l'intégralité de mes paroles. Nous ne sommes pas là pour être caution morale les uns des autres. Ça n'est pas le sujet. Vous les appelez des ambassadrices, ce ne sont pas des ambassadrices. Le président de la République a dit lui-même tout à l'heure, je vous demande de rester tel que vous êtes, c'est-à-dire des activistes. Et je crois qu'on n'a jamais rien obtenu dans le monde en matière d'égalité femmes-hommes en battant des cils gentiment et en demandant s'il vous plaît, si ça vous dérange pas trop, on aimerait bien avoir une nouvelle loi sur l'égalité femmes-hommes. Son mode d'action, il est ce qu'il est. Il y avait aussi, par exemple, Assia Benzian, qui est la plus jeune élue de France, qui avait été élue à l'âge de 18 ans. Caroline Fourest était présente également. Nous avions Aza Regner, qui est la numéro 2 de ONU Femmes, qui était ministre en Suède précédemment. Katia Iverson, la présidente de Women Deliver, une grande organisation canadienne. Grégoire Terry, qui lutte pour protéger les personnes prostituées partout dans le monde. Et un certain nombre de personnalités extrêmement engagées, que ce soit par leur parcours personnel. Irène Natividad du Global Women Forum et d'autres femmes et hommes engagés sur ce sujet.
Alors l'égalité homme-femme, ou en tout cas la parité homme-femme, a parfois des effets pervers, en tout cas pervers à vos yeux. Il y a quelques jours, le conseil municipal de Sarcelles en région parisienne a dû démissionner parce qu'il ne respectait pas les textes sur la parité. Il y avait trop de femmes dans ce conseil municipal. Vous avez regretté cette décision en considérant que c'était un dévoiement de la loi. Mais la loi, c'est la loi, non? Dans un sens comme dans l'autre.
Oui, mais moi je trouve que c'est trop facile. Si vous me permettez, à chaque fois qu'il y a une réunion ou quelque chose avec plus de femmes que d'hommes, on a toujours un petit malin pour nous dire « Ah bah c'est pas la parité, il manque un homme,
etc. » Oui, mais si c'est pas la loi, il faut respecter la loi.
Oui, d'accord, mais cette indignation, elle est à géométrie variable. Dans ces cas-là, cassons l'ensemble des conseils municipaux qui ne respectent pas la parité à 50-50. Ouais. Et il y en a. Faisons en sorte que cette loi, elle soit étendue et appliquée par exemple aux communautés de communes, aux agglomérations dans lesquelles il n'y a pas la parité. Mettons des amendes plus fortes à tous les partis politiques qui ne respectent pas la loi sur la parité. Il y a une loi qui oblige les partis à présenter 50% de femmes aux élections législatives. Tous les partis qui ont été majoritaires, qui ont eu des groupes importants à l'Assemblée, depuis toujours, depuis que cette loi existe, ont préféré provisionner de l'argent pour payer des amendes plutôt que de présenter des femmes. La République En Marche, nous sommes le premier mouvement politique qui a présenté 50% de femmes sur des circonscriptions gagnables, et ce qui nous donne un groupe majoritaire quasiment paritaire. Donc là, je crois qu'il y a une question aussi de volonté et de message politique. La loi, il faut respecter aussi l'esprit des lois, comme disait l'autre.
Vous défendez, Marlène Schiappa, le concept, en quelque sorte, de diplomatie féministe. Qu'est-ce que c'est, la diplomatie féministe ?
Oui, tout à fait. Et on a eu l'occasion d'en parler lors du conseil consultatif pour la présidence française du G7 sur l'égalité femmes-hommes. C'est quelque chose que nous avons lancé auprès des Nations Unies. Et la diplomatie féministe, l'idée, c'est d'avoir un partenariat avec l'ensemble des pays de bonne volonté dans le monde sur les questions d'égalité femmes-hommes. D'abord pour apprendre les uns des autres, parce que la France a beaucoup à apprendre d'autres pays qui sont plus avancés qu'elle sur un certain nombre de sujets de droits des femmes, mais aussi pour partager nos lois innovantes. Tout à l'heure a été cité dans le cadre de ce conseil consultatif notre loi pour pénaliser le harcèlement de rue. Plusieurs membres ont noté que c'était le seul pays au monde, la France, qui verbalisait avec des amendes le harcèlement de rue et en souhaitant l'implémenter ailleurs. Donc nous avons le président de la République qui a lancé à l'ONU un appel pour une grande cause mondiale pour l'égalité femmes-hommes et pour engager les pays avec lui. Je crois que c'est manifester un leadership pour les droits des femmes. Et dernière chose, c'est aussi refuser une forme de relativisme culturel. C'est Françoise Giroud qui m'a précédée elle aussi, qui disait qu'être féministe, c'est refuser pour d'autres femmes, ne pas tolérer pour d'autres femmes ce qu'on ne tolérerait pas pour soi-même. Je crois que c'est ça, c'est dire qu'il n'est pas acceptable que des fillettes soient excisées, par exemple, que ça se passe en France ou que ça se passe au Tchad, au Niger ou dans d'autres pays.
À propos de diplomatie et de femmes, RFI a révélé ce matin que l'ambassadeur de France au Vanuatu était visé par deux plaintes déposées au parquet de Nouméa en Nouvelle-Calédonie pour agression sexuelle, précisons qu'il s'agirait de gestes ou de propos déplacés. Il sera entendu demain par la directrice générale de l'administration. Si les faits venaient à être confirmés, ce serait assez navrant en soi et pour l'image de la France.
Bien sûr, mais d'abord, je n'ai pas d'informations sur ce dossier en particulier, donc je ne peux évidemment pas me prononcer. Il y a une plainte, donc il y aura une enquête, il faut que la justice fasse son travail. Mais si vous voulez, il y a des gens qui violent et qui agressent les femmes à tous les niveaux, quel que soit le niveau social. Il y en a forcément dans toutes les professions. Et je crois que ce qui est important, c'est de les voir, de les dénoncer et qu'elles soient condamnées. Mais je parle là du principe général et je n'ai aucune information sur ce cas en particulier. Il faut que la justice se fasse sereinement.
Restez-vous engagé dans la cause du grand débat national et dans ce rôle en quelque sorte de médiatrice que vous avez eu à la télévision
avec
Cyril Hanouna.
Je crois que c'est important de travailler à la fois au niveau mondial sur l'égalité femmes-hommes, au niveau le plus large, le plus global, mais aussi au niveau quasiment microscopique. Et nous nous engageons pour travailler notamment sur la question des mères isolées. Ouais. J'ai fait des grands débats à Bergerac, un village dans le sud-ouest, au Canada. J'en fais là demain à Nantes.
Il devrait d'ailleurs y avoir des mesures annoncées en faveur des femmes qui élèvent seules leurs enfants.
Exactement, je crois que nous avons beaucoup de progrès à faire. Il y a des points d'amélioration, comme on dit, notamment sur la question du paiement des pensions alimentaire pour que ces femmes puissent s'en sortir. Et puis peut-être de la lisibilité, parce qu'on a quand même en France, on est un peu les champions pour avoir un millefeuille administratif de documents à remplir. Et je crois qu'il faut faire en sorte que tout ça soit plus lisible pour les mères qui sont seules, qui courent déjà après le temps, qui sont toutes seules, souvent épuisées. Il faut qu'on rende ça plus simple.
Merci Marlène Schiappa. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'y avoir participé.
Et
Mardi Politique revient évidemment mardi prochain. Bonne soirée à tous. We'll be right back.